Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme tous les jours, dès 15h, il est à mes côtés, stéthoscope au cou. Ah ben non, c'est pas vrai, il le met pas, il l'enlève pour rentrer dans le studio justement, mais il vient quand même prendre soin de vous, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Vous avez vu, je vous présente de façon...
Quel teasing incroyable,
médical,
jour
quoi.
Après jour, c'est de mieux en mieux.
Très bien. Allez, au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à un régime dont on parle de plus en plus, le régime cétogène. Zéro sucre, plus de gras, mais du bon gras avec des résultats parfois spectaculaires sur la balance. Alors, cette méthode, attention, n'est pas sans risque, mieux vous êtes accompagné par un professionnel de santé. Justement, pour nous décrypter tout ça, notre invité, ce sera le docteur Catherine Lacronnière. Elle est médecin nutritionniste à Paris. Ensuite, dans notre chronique, les mots du quotidien. Nous ferons un zoom cet après-midi. Enfin, plutôt, Benjamin Lévesque viendra nous expliquer les bienfaits de la zoothérapie. Et oui, il n'y a pas que les médicaments qui soignent, qui soulagent. Vous verrez que nos amis les animaux peuvent nous apporter de nombreux bénéfices sur notre santé. Enfin, vers 15h50, nous retrouvons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle nous livrera tous les secrets des zones érogènes sur notre corps.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Lola qui a 37 ans.
Oui, bonjour docteur, je me permettais de vous appeler pour poser une petite question. Quand je brosse les dents, ça saigne et j'ai les gencives rouges. Est-ce qu'il faut que j'insiste ou au contraire que j'arrête de les brosser? Merci beaucoup, au revoir.
Alors, pour vous répondre avec précision, Lola, on a posé votre question au docteur Christophe Lecard. Il est chirurgien dentiste, membre de l'UFSBD, l'Union française pour la santé bucco-dentaire. On l'écoute.
Si vos gencives saignent, c'est qu'il y a une inflammation. Les gencives sont rouges, un peu gonflées et parfois douloureuses, alors qu'une gencive saine est rose et a un aspect en peau d'orange. Cette inflammation est liée à la présence de plaques dentaires et de tartre. La plaque dentaire s'élimine lors du brossage et le tartre par un détartrage chez votre dentiste. Donc en cas de saignement gingival, il faut insister sur le brossage au niveau de cette zone. On utilise une brosse à dents souple. Au départ, le brossage peut être un peu douloureux, entraîner des saignements qui vont progressivement disparaître. Par contre, si cette inflammation est sur l'ensemble de vos gencives, il faut absolument consulter votre chirurgien dentiste parce que vous avez une maladie gingivale et peut-être un déchaussement dentaire que l'on appelle une parodontite. Et même en absence de problème particulier, une visite de contrôle tous les ans chez votre chirurgien dentiste est recommandée.
C'était donc le docteur Lecard au micro de Benjamin Lévesque. À présent, Jimmy, passons à la deuxième question d'auditeur du jour. Elle est pour vous, celle-ci, c'est Cédric qui est en région Rhône-Alpes. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai eu le Covid en avril, j'ai fait une sérologie en septembre et j'avais encore les anticorps. Est-ce que vous pensez que je peux retomber malade? Merci, bonne émission.
Alors une question que de nombreuses personnes qui ont eu la Covid finalement se posent. Est-ce que Cédric, comme il demande, peut être réinfecté là au mois de janvier alors qu'il a déjà eu la Covid en avril? Il dit qu'il avait des anticorps en septembre, mais bon, est-ce qu'il peut être réinfecté aujourd'hui?
Alors c'est quelque chose qu'on observe de façon marginale. On a très peu de données en ce qui concerne les réinfections, mais on en observe tranquillement quelques patients par-ci par-là qui ont eu le Covid en mars et qui de nouveau ont eu des symptômes en août, septembre, octobre, novembre, et ce serait lié à un petit variant du virus. On sait que le coronavirus se réplique de nombreuses fois, commet des erreurs et qu'il existe de nombreux variants mais qui ne sont pas forcément plus contagieux. Je ne vous parle pas du variant anglais,
non, c'est pas ça.
Mais pour l'instant, ce taux de réinfection, à l'heure actuelle, il est plutôt faible. Ça veut dire qu'on a malgré tout une immunité qui dure au moins quelques mois.
D'accord. Alors justement, il dit que lui, en septembre dernier, il avait encore des anticorps. C'est pas quelque chose qui est stable dans l'organisme. C'est pas parce qu'il en avait en septembre, effectivement. D'ailleurs, il pose la question qu'il en a encore aujourd'hui. On n'en sait plus sur la durée de, vous dites, des mois, mais quelle protection pendant combien de temps?
Il y a une étude anglaise qui s'est intéressée à cette question. 12 500 soignants qui ont eu certains le Covid avec une sérologie positive. 1200 d'entre eux avaient donc une immunité contre le virus et on les a suivis pendant 8 mois. À 8 mois, on s'est rendu compte...
Recul, là, déjà.
On a déjà un petit peu de recul. À l'échelle du coronavirus, 8 mois, c'est énorme. Au bout de 8 mois, on s'est rendu compte que l'incidence de personnes qui avaient une sérologie positive et qui étaient donc en principe protégées et qui refaisaient une nouvelle infection était de 0,11%.
Oh, pas grand-chose.
Ça veut dire qu'il y en a peu, mais il en existe malgré tout, mais on est simplement à 6-8 mois. La question, c'est que va-t-il devenir à 1 an, 2 ans? Et même question pour le vaccin. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de réponses, malheureusement, à proposer.
D'accord. En tout cas, alors même si le risque de réinfection pour ce jeune homme est faible, ça veut dire que bah, même quand on l'a eu, on est peut-être protégé, peut-être pas, mais en tout cas, on ne peut pas lâcher les gestes barrières.
Exactement. Ça permettra notamment de se débarrasser des autres virus. Vous avez vu, on n'a quasiment pas de grippe, pas de bronchiolite. Donc les gestes barrières, ils servent pour le coronavirus, mais aussi pour l'ensemble des maladies.
Est-ce que ça vaut le coup qu'ils surveillent justement cette sérologie, qu'ils la refassent régulièrement, je ne sais pas, avant l'été peut-être, ou encore au cours de l'hiver, pour vérifier s'il a toujours des anticorps? Il n'y a pas vraiment de recours là-dessus.
Ouais, mais... on n'a pas de réponse. On ne sait en revanche, la Haute Autorité de Santé a dit est-ce qu'il fallait vacciner ou pas les personnes qui avaient une sérologie positive. Alors pour l'instant, on a peu de recul et peu de données scientifiques, puisque le recul est d'environ de 3 mois. Mmh. On ne sait pas exactement si jamais il faut se faire vacciner et quels bénéfices on peut en avoir, puisque dans les études de Pfizer et de Moderna, il y avait quelques personnes avec des sérologies positives, mais pas assez. En revanche, on sait qu'il n'y a pas de risque, a priori, de se faire vacciner.
Peut-être mais pas la semaine après l'infection, quand même.
Il faut attendre un délai de 3 mois après une infection à Covid pour se faire vacciner sans faire de sérologie. Puisque ce n'est pas parce que votre sérologie est négative que vous n'avez pas une immunité un peu plus profonde cachée qui vous protège du coronavirus. Parlez-en à votre médecin le moment venu.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Cédric qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout pas d'hésitation.
Europe 1.
Dans un instant, place à notre invitée pour le dossier du jour, c'est la médecin nutritionniste Catherine Lacronnière. Avec elle, nous allons faire le point sur ce régime dont on parle tant, le régime cétogène. Un régime avec du gras, alors ça on aime bien, mais attention, pas n'importe quel gras. On va tout vous expliquer, restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en ligne avec nous notre invitée du jour. C'est vous, docteur Catherine Lacronnière. Bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors vous êtes médecin nutritionniste à Paris et avec vous donc on va parler de ce régime cétogène. Alors d'abord dans les grandes lignes on va dire, c'est quoi? Moi ce que j'ai en tête c'est maigrir avec du gras et rien que du gras. Donc comme ça, ça a l'air cool hein.
Bah écoutez Mélanie, vous avez tout à fait raison, en effet. C'est vraiment juste le contraire de ce qu'on raconte depuis des décennies, c'est-à-dire qu'en fait, on va changer le carburant de l'organisme et on va vous nourrir principalement de graisse en diminuant beaucoup les sucres qui d'habitude sont la principale source d'énergie de l'organisme. On va laisser aussi un peu de protéines, mais juste ce dont le corps a besoin.
Et Catherine, juste pour qu'on comprenne bien, dans une alimentation classique, quelle est la répartition entre les glucides, les protéines et les lipides?
Alors, c'est pas du tout ce que je viens de vous raconter. Donc, en fait, les glucides sont la principale source d'énergie, le fuel de notre organisme.
Le sucre, hein, non ?
Voilà, le sucre, tout à fait. Glucides, sucre, ils représentent entre 40 et 55% de nos calories quotidiennes.
Ouais.
Quant aux graisses, c'est-à-dire les lipides, c'est 35 à 40%. Et pour le reste, les 10 à 20% restants, ce sont des protéines.
Et comment on change la balance, alors, quand on passe au régime cétogène ?
Eh ben, on va arrêter de manger tout ce qui contient des sucres, puisqu'on va avoir moins de 10 et parfois même moins de 5% d'apport en sucre. Donc, il va y avoir énormément d'aliments interdits et on va favoriser, au contraire, une alimentation très riche en graisse.
Et c'est quoi, 80% de gras? Enfin, combien sur le bol alimentaire de la journée, on va dire?
Ça va, ça commence à 70%, ça peut aller à 80% et ça peut même monter dans certains cas très spécifiques comme des épilepsies chez l'enfant qui résistent aux traitements médicamenteux, on peut aller jusqu'à 90% d'apport en graisse.
Jimmy, vous allez vous transformer en plaquette de beurre.
Mais du coup Catherine, comment est-ce qu'on fait si on n'a plus de glucides? Vous avez dit c'est du carburant, c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve un autre carburant ailleurs, on va puiser dans les graisses justement?
Exactement, c'est-à-dire que c'est comme une voiture hein, qui n'a plus son fuel principal, et bien il faut qu'il aille chercher quelque chose d'autre. Et bien en fait, il va transformer les graisses en un métabolite intermédiaire qui s'appelle les corps cétoniques. Ça se passe au niveau du foie, et ce sont ces corps cétoniques qui vont fournir l'énergie au corps. Et d'ailleurs, ceux qui font un jeûne s'en rendent compte, parce que les corps cétoniques, ça a un effet extrêmement désagréable. Ça vous donne une mauvaise haleine. Donc quand vous avez mauvaise haleine,
on a
et
le
vous
masque
gênez,
en ce moment, donc ça
évite. Exactement. Ça évite ce genre de problème. Mais donc, ce sont les graisses qui vont subir une transformation puisque le corps ne trouve pas son apport en sucre habituel.
Docteur Lacronnière, vous expliquez donc le régime, c'est finalement réactiver notre cétose naturelle. Vous l'avez déjà un petit peu expliqué, mais est-ce que vous pouvez nous détailler un peu plus, c'est quoi finalement physiologiquement cette cétose ?
Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, à partir du moment où on ne vous donne plus de sucre, vous allez, au tout départ, dans les premiers jours, utiliser ce qui vous reste de réserve de sucre dans le corps. Ça s'appelle le glycogène. Ça se trouve au niveau du foie et ça se trouve au niveau du muscle. Il se trouve que ce glycogène est relié à des molécules d'eau. Donc, comme vous allez l'utiliser, vous allez vous déshydrater. Et c'est pour ça qu'au départ d'un régime cétogène, vous avez une perte de poids extrêmement rapide. Parce qu'en fait, vous perdez de l'eau. Une fois que vous n'avez plus de ce glycogène, eh bien, vous allez utiliser les graisses, d'une part fournies par l'alimentation, puisque c'est tout ce qu'on vous donne à manger finalement, pour les transformer en corps cétonique, mais vous allez également utiliser les graisses qui sont stockées dans les cellules graisseuses, qu'on appelle les adipocytes, qui vont elles aussi se transformer en corps cétonique. Et tous ces corps cétoniques vont jouer le rôle de carburant.
Et au bout de combien de temps cette cétose va se mettre en place? Est-ce qu'il faut attendre très longtemps?
Alors, c'est une moyenne de 72 heures. En fait, c'est 2 à 4 jours. Maintenant, il y a certaines personnes chez qui ça peut mettre plus de temps.
Et c'est pendant ces 72 heures qu'on a une mauvaise haleine ou est-ce que ça dure tout le long?
Ah non, ça dure. Ça dure parce qu'à partir du moment où vous fabriquez vos corps cétoniques... Exactement, exactement.
Alors, c'est nouveau ce régime cétogène parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on en entend beaucoup parler ces dernières années, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de stars, d'actrices, de mannequins qui s'exposent avec des pertes de poids spectaculaires. Mais est-ce que ça existait déjà? Ça vient d'où?
Alors, ça date des années 20, mais du siècle dernier.
Ah oui, quand même.
Donc, voilà, oui, vers 1920, en fait, on l'a inventé au départ pour les enfants épileptiques qu'on n'arrivait pas à traiter. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ces corps cétonites, ils ont une action probablement contre les convulsions. Et puis, il est tombé un peu dans l'oubli à partir du moment où on a eu des médicaments contre l'épilepsie. Et il est revenu, entre guillemets, à la mode ces dernières années pour plusieurs raisons. Parce qu'il reste quand même certaines maladies rares où l'épilepsie ne peut pas être traitée par ou est résistante aux médicaments. Et puis, en effet, comme vous le dites, on en a parlé pour des pertes de poids extrêmement rapides. Les sportifs, certains en tout cas, en ont fait un petit peu leur cheval de bataille. Et on en parle également pour l'aide à la prise en charge de certains cancers ou de maladies neurodégénératives.
Mais justement, est-ce qu'il y a des maladies ou des cancers dans lesquels on a des preuves de l'efficacité de ce genre de régime? Vous l'avez dit, on a commencé avec l'épilepsie, mais est-ce qu'on a des données un peu solides pour nous dire effectivement ça aide à lutter, je ne sais pas, contre le stress oxydatif ou améliorer certains cancers?
Alors c'est là on fait toujours extrêmement attention. Il y a en effet des études qui ont vu qu'avec certains cancers du cerveau, qu'on appelle les neuroblastomes ou les glioblastomes, des cancers du côlon, du pancréas, de la prostate ou du poumon, mais je dis certains d'entre eux parce que ce n'est pas forcément le cas de tous, eh bien on arrivait à limiter la croissance de la tumeur avec ce régime. Mais dans ce cas-là, il faut bien comprendre que c'est l'équipe médicale qui décide de la mise en place de ce protocole qui est extrêmement codifié et pour certains cancers uniquement, pas pour tous. Donc on peut pas faire de l'amateurisme avec ça. On a également pu avoir des informations sur le fait que ça pourrait aider à limiter l'évolution de la maladie d'Alzheimer, mais il nous manque beaucoup d'études.
Soyons prudents encore.
Donc la seule chose aujourd'hui que l'on peut dire, c'est que pour les formes d'épilepsie grave, surtout chez l'enfant, eh bien il y a un intérêt.
Alors, en dehors du côté pathologique, on va dire, il est bon pour qui ce régime, en dehors de Gwyneth Paltrow et de la famille Kardashian, finalement? C'est quel profil de patients qui peuvent se lancer dans ce régime sans risque, on va dire? En tout cas, si c'est pour maigrir, je veux dire.
Alors sans risque, ça va pas. Là, il y a un pléonasme, on peut pas parler de ça parce que c'est un régime extrêmement restrictif et par définition, voilà. Un régime restrictif, ça risque de conduire à une reprise d'autant plus importante.
Pour 10 000 mois, a priori, on va pas dévoiler notre bilan de santé, mais on est plutôt en bonne santé, on est jeune, on n'a pas de facteurs de risque particuliers, on veut perdre du poids, est-ce que ça pourrait être bien?
Alors, ça peut être bien si vous êtes en effet aidé et suivi, si vous connaissez les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir après penser...
S'éloigner, ça va être compliqué parce qu'on va sortir de la bouche, on a compris déjà.
Par exemple. Et puis alors, si vous avez trop de cholestérol, eh bien, il faut éviter parce que ça va augmenter le taux de cholestérol. Si vous présentez ce qu'on appelle une stéatose hépatique, un foie gras en quelque sorte, ça va pas améliorer les choses. En revanche, on a montré que ça pouvait améliorer le taux d'un autre type de graisse qui s'appelle les triglycérides et même le taux de sucre. Mais attention, ça n'est pas conseillé. C'est pas le régime à conseiller en cas de diabète.
D'accord. Catherine Lacronière, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous. Europe 1.
Dans ce rendez-vous, nous allons poursuivre ce décryptage sur le régime cétogène et au-delà des résultats d'amaigrissement très rapide qu'il permet d'obtenir, on va quand même s'arrêter quelques minutes sur les risques induits qu'on vient un petit peu d'aborder déjà sur cette façon de s'alimenter. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous,
15h-16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, notre invitée en ligne avec nous, c'est le docteur Catherine Lacronnière. Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste à Paris. Et donc avec vous, on s'intéresse à ce régime cétogène cet après-midi. Régime qui peut donner rapidement des résultats d'amaigrissement assez incroyables, mais qui n'est pas sans danger si on s'y prend mal d'ailleurs. Vous conseillez quand même, avant de se lancer dans ce régime, de faire une petite prise de sang. Pourquoi cette précaution ?
Bien parce qu'en fait, l'alimentation, le régime cétogène, va donc risquer d'augmenter le taux de cholestérol total et également celui du mauvais cholestérol, le LDL cholestérol. Donc, il faut vérifier si vous n'êtes pas déjà dans un cas d'hypercholestérolémie. À ce moment-là, on va vous proposer de ne pas le faire. Et puis, de toute manière, si vous avez une maladie chronique, une maladie longue, une maladie grave, à part, dont on a parlé tout à l'heure, certains cancers, sont des choses à éviter. Tout ce qui est régime restrictif, a priori pas souhaitable.
Est-ce qu'au bout de quelques jours de ce régime, on ne va pas ressentir des symptômes un peu désagréables du fait justement de l'augmentation des corps cétoniques ? Ou est-ce que tout se passe tranquillement
quand même tout se gras.
Ah oui, ben non, en fait, tout se gras, ça provoque justement quelque chose qui s'appelle possiblement la grippe cétogène. Ouh. Alors ne vous inquiétez pas, on n'est pas là dans le Covid.
Ouais, c'est quoi ?
Mais vous pouvez ressentir des maux de tête, une fatigue, des vertiges. Certains parlent même d'une sorte de sensation de brouillard, voire des insomnies. C'est dû en fait à la déshydratation. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'au départ, on a vraiment un risque de déshydratation puisqu'on va utiliser toutes nos molécules restantes de glycogène. Et c'est également dû à une perte de ce qu'on appelle les électrolytes, c'est-à-dire le sodium, le potassium, le magnésium. Alors, pour pallier à ça, on va vous proposer de beaucoup boire pour limiter la déshydratation.
De l'eau, hein.
Voilà, de l'eau. On peut également imaginer un bouillon pour vous amener du sel, c'est-à-dire du sodium, des épinards pour vous amener du potassium parce que vous avez le droit à certains légumes, et puis des oléagineux, des noix, des noisettes.
Docteur Lacronnière, vu qu'on mange, y a quand même plein de choses qu'on élimine de l'alimentation, il n'y a plus de fruits, on doit être quand même en carence de plein de choses, non ? Est-ce qu'il ne faut pas se complémenter un petit peu quand on fait ce régime ?
Alors, tout dépend de la durée sur laquelle vous envisagez, mais c'est vrai qu'on va avoir des carences puisqu'il va y avoir, il n'y aura pas tout les vitamines des fruits et des légumes. Donc, adieu vitamine C, adieu antioxydants. Il n'y a pas non plus de fibres, donc on peut avoir une constipation.
Il ne faut pas que ça dure une année entière, ce truc-là, quand même, hein.
Non. Ouais. Uniquement, alors ça durera longtemps chez les personnes chez qui ce régime a été mis en place par une équipe hospitalière dans le cadre d'une pathologie bien précise.
Et souvent dans les régimes un peu restrictifs, comme c'est le cas, le régime cétogène, ça reste quand même difficile, c'est pas une partie de plaisir. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'effet yo-yo quasiment obligatoire lorsqu'on va reprendre une alimentation normale ?
Ah ouais, très 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 fréquent, c'est sûr, hein, parce que essayer de manger comme ça à vie, c'est très compliqué. Ouais. Hein, ça peut paraître très sympathique au départ de se dire « Ouh, c'est fantastique, je ne me nourris que de gras ». Mais au bout d'un moment, les choses vous manquent, parce qu'on est quand même omnivore et fait pour manger plein d'aliments différents. Donc, en effet, à partir du moment où vous remettez plus de glucides, c'est la reprise. La cétose s'arrête et vous reprenez du poids.
Mais à quoi ça sert du coup de faire ce régime si au bout d'un moment...
Maigrir, Jimmy. Pourquoi les gens font des régimes?
C'est pour ça que nous nutritionnistes nous mettons en garde contre des régimes restrictifs.
Catherine, en préparant cette émission, vous nous avez expliqué quand même que pour la beauté de notre peau, c'est pas top non plus. Moi, c'est vrai que je m'imagine transformée en plaquette de beurre, en fait, mais bon.
Alors, en fait, il y a du bon et du mauvais, c'est-à-dire que vous avez de la vitamine E, qui est une vitamine, ce qu'on appelle liposoluble, donc grasse, donc ça va nourrir votre peau, mais vous n'allez pas avoir cette fameuse vitamine C, antioxydante, anti-vieillissement, ni le bêta-carotène, qui est une provitamine A, tout ça on le trouve dans les fruits et les légumes, donc votre peau, vous n'aurez pas ce joli teint frais qu'on peut avoir en mangeant des fruits et des légumes.
Mauvaise haleine, la peau dégoûtante, ça a l'air super.
Oui, effectivement, je ne vous cache pas qu'on est un peu refroidi.
Mais vous perdez, vous maigrissez en tout cas.
Oui, mais c'est l'hiver, on cache ces kilos sous nos pulls, ça ne pose pas de problème, la plage c'est pas pour tout de suite. Mais du coup, vous l'avez dit, il faut un accompagnement, il faut un suivi, mais est-ce qu'il y a des contre-indications formelles chez des gens qui ont des problèmes de santé très particuliers pour lesquels il ne faut surtout pas faire ce régime ?
Alors, quand vous avez un régime restrictif, vous risquez de faire plus de calculs. Et là, on a trouvé en fait qu'il y avait une augmentation des calculs rénaux. Donc, dans ce cas-là, il faut éviter. Les personnes dont on parlait tout à l'heure avec un trouble des lipides et en particulier du cholestérol, ceux qui présentent une stéatose,
un foie gras, c'est la maladie du foie gras, c'est ça.
Voilà, tout à fait.
Alors, on imagine bien, déjà gras, on va pas le rendre encore plus gras le foie. Ouais.
Exactement. Et puis, il y a des périodes de vie, il faut absolument pas faire ce genre de protocole pendant la grossesse par exemple. Et puis il y a des troubles du
des on peut faire des régimes la pendant la grossesse globalement, non, c'est pas très conseillé quand même.
Non, sauf si vous avez un diabète gestationnel, et à ce moment-là on vous donne un régime pour médical pour traiter ce diabète, mais on va pas mettre de cétogène pendant une grossesse, ça c'est strictement contre-indiqué.
Vous l'avez dit, des sportifs parfois utilisent ce genre de régime, ça veut dire que l'activité physique est compatible avec le régime cétogène?
Alors, il y a deux choses. D'abord, ça peut leur permettre de perdre très rapidement. Et c'est vrai, quand vous avez un marathon et que vous avez quelques kilos de trop, vous êtes content de perdre très rapidement. Mmh. En plus, assez rapidement peut s'installer une constipation. Et quand vous savez que quand on court, c'est bien de pas avoir de troubles digestifs. Donc, c'est pour ça que c'est particulièrement prisé de certains sportifs. Mmh. Le problème, c'est que... puis, vous n'êtes pas spécialement fatigué avec ces corps cétogènes, donc cétoniques, pardon. Mmh. Donc, mais le problème, c'est la reprise et le long cours.
Mais en tout cas, c'est compatible. Chez les enfants, bien sûr, en surpoids ou même qui souffrent d'obésité, hors de question. Parce qu'il y a trop, il y a trop de carences, on est d'accord.
Et oui, tout à fait. Et puis des troubles, des retards de croissance. Alors, les enfants épileptiques graves doivent être suivis, traités avec ce type de régime, ça se fait au gramme près. C'est vraiment l'équipe qui calcule. C'est extrêmement, extrêmement précis. Mmh.
Docteur Lacronière, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
On revient très vite avec cette émission consacrée à ce régime tendance, le régime cétogène, dont on voit parfois les résultats spectaculaires sur les réseaux sociaux, avec des actrices ou des influenceurs qui affichent leur perte de poids très importante. Alors comment ça se passe très concrètement dans l'assiette? On y revient dans quelques toutes petites minutes. À tout de suite.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1, vous l'avez compris, dans son rendez-vous. Elle est avec nous en ligne cet après-midi, c'est le docteur Catherine Lacronière. Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste à Paris. Alors Catherine, nous faisons un point sur ce régime tendance, le régime cétogène, très à la mode parmi certaines stars américaines notamment. Alors justement, comment ça se traduit dans l'assiette au quotidien? Qu'est-ce qu'on doit complètement éliminer? Vous nous avez dit zéro sucre, mais ça veut dire quoi dans l'assiette?
Alors en fait, c'est pas tout à fait zéro sucre, mais c'est à peine plus, c'est-à-dire 50 grammes au maximum et parfois 20 grammes dans certains cas. Alors je sais pas si vous avez un papier et un crayon, mais alors les interdictions sont très importantes. Bien entendu, tout ce qui est produits sucrés, tout ce qui va être la plupart des fruits sauf certains, la plupart des légumes, en particulier ceux qui vont être trop riches en sucre. On oublie complètement les pâtisseries, les viennoiseries, tout ça c'est terminé, les biscuits, je ne vous en parle pas, mais également... Ce que nous conseillons, nous, d'habitude, c'est-à-dire les légumineuses, les féculents, tout ça, on oublie.
Ah oui, aussi.
On va également, oublier les produits laitiers de vache, les fromages à pâte molle, parce qu'ils contiennent du lactose.
Qu'est-ce qui reste, Catherine? J'ai peur. Dis-nous, tout est interdit, en fait.
Je n'ose même pas répondre, parce que je suis atterré. Nous ne sommes pas des ruminants, on ne va pas manger de l'herbe. Est-ce qu'on a le droit à l'herbe, Catherine?
Non. Alors, l'herbe, je ne sais pas, mais a priori, je ne suis même pas sûre qu'on ait le droit à l'herbe. Par contre, voilà.
Les féculents, les pâtes, le riz,
tout ça, on oublie. Ah, aussi. On oublie.
Le pain non plus, du coup, je suppose. Aucun pain, il n'y a pas un seul pain qui est possible, zéro.
Sauf si vous le faites vous, parce qu'il y a des recettes qui ont fleuri, puisque bien sûr les gens qui veulent suivre cette alimentation, eh bien ils sont très inventifs, ils ont imaginé de nouvelles recettes, et en particulier une recette de pain qu'on appelle le pain keto. On va pas utiliser une farine, on va utiliser de la poudre d'amande, et ça permet d'avoir quand même un petit pain qui vous permet d'avoir un petit déjeuner qui ressemble à quelque chose.
C'est bon, la poudre d'amande.
Je préfère ne pas manger de pain que de manger ce truc qui a l'air infâme. Est-ce qu'on a droit aux produits laitiers? Ah oui, il est bon. Ah d'accord. Ah, bon.
Il est bon.
Les produits laitiers sont interdits?
Non, les produits laitiers sont interdits parce qu'en fait, vous avez ce lactose, le sucre du lait, qui peut être utilisé comme une source de sucre, une source d'énergie. Donc, pas de produits laitiers, de vache en particulier, mais on va pouvoir utiliser d'autres yaourts, en particulier le yaourt de coco.
Alors, fruits, vous avez dit certains quand même sont autorisés, lesquels?
Alors très peu, parce que pour vous donner une petite idée, une pomme, ça fait à peu près 150 grammes et ça va vous donner 21 grammes de sucre. Vous avez vu, je vous ai dit, il faut être en dessous de 50, voire en dessous de 20. Ah ouais. Donc si vous mangez votre pomme, alors ça y est, votre budget est terminé. Donc il vous reste en fait
on voulait le comprendre, hein, ce régime cétogène. C'est pas qu'on était, on est séduit avec Jimmy, mais on voulait le comprendre. On comprend effectivement que bah, du coup, ça coûte pas très cher, non, j'imagine.
Alors quand même, parce que ce sont les fruits rouges. Vous allez dire,
ah oui,
pas
ça
de
coûte
saison.
Cher, oui, oui.
Mais voilà, finalement, ça coûte cher. Les fruits rouges, qui sont beaucoup moins riches en sucre qu'on peut utiliser. Alors, à cette saison, eh bien, on va les favoriser en surgelé. Mais le régime cétogène va vous permettre de manger de la noix de coco, bien entendu.
Ah, c'est ça
qu'on a
ça.
Tous les jours. Oui,
on
c'est très
pas
facile.
Dans Koh-Lanta, c'est dans Koh-Lanta qu'on mange de la noix de coco du matin, le midi et le soir.
Ça dit, voilà. un petit pain keto avec un petit peu de noix de coco et quelques framboises.
Voilà. Un kilo en trop, toi.
Mais vous avez dit
quelques légumes, malgré tout.
Et de l'avocat.
L'avocat, oui, c'est du gras.
L'avocat.
Ah, on adore l'avocat. Bah,
exactement. L'avocat, ça, c'est un très, très bon produit. Mais la coco aussi, hein, l'huile de coco a un intérêt. Elle a des acides gras qui s'appellent les triglycérides à chaîne moyenne, qui passent directement au niveau du sang et qui ne sont pas nocifs au niveau cardiovasculaire. Donc, tout n'est pas mauvais, attention, hein, dans cette alimentation.
Donc, les légumes, en fait, vous avez dit quelques légumes sont autorisés.
Alors, les légumes verts, en règle générale, parce que tous ceux qui vont être plus sucrés, les betteraves, le maïs, la carotte, par exemple, eh bien, on oublie.
Voilà. Ah oui. Donc, pourquoi c'est sucré, c'est pour ça?
Oui, tout à fait, ça va augmenter votre budget glucide.
D'accord, et on a parlé tout à l'heure du principe de manger du gras, mais c'est pas n'importe quel gras. Si je vais au kebab, par exemple,
ah oui.
Et qu'il va me donner la petite viande
à
la brochette, là, ou le poulet, est-ce qu'on a le droit? Il y a gras et gras, j'imagine.
Oui, tout à fait. Alors justement, on va conseiller ce qu'on appelle des graisses bénéfiques, plutôt au niveau cardiovasculaire. C'est des graisses avec une forme qui s'appelle insaturée, c'est leur forme chimique. On va limiter, on va essayer de ne pas prendre trop de graisses saturées. Donc vous n'allez pas vous nourrir du matin jusqu'au soir de kebab ou de charcuterie ou de mayonnaise.
Les frites, c'est des féculents, voilà. Donc même si c'est plein d'huile, ça suffit pas.
Ça, c'est raté, voilà. Ouais, les frites, on oublie de
toute
façon.
Mais le beurre, voilà. On peut par exemple.
Le beurre, on peut, à condition, bien entendu.
Tout seul, hein, parce qu'on a le droit de manger rien d'autre à côté. Mais bon.
Voilà. Plaquette de beurre.
Le beurre, si on n'a pas le droit au pain, je ne sais pas.
Mais si, parce que vous avez votre pain keto.
Bah moi, le beurre, je le mets dans les pâtes, j'ai pas le droit aux pâtes, donc du coup, je me retrouve avec ma plaquette de beurre. Et je sais
vous
pas
pouvez
faire.
Mettre votre beurre dans vos épinards.
Ah oui,
ça peut être une
vrai.
Solution.
Ouais.
Voilà, les huiles végétales, bien sûr. Et puis, tout ce qui est graines, oléagineux, donc les graines de courge, les graines de lin, les oléagineux, ce sont les noix, les noisettes, tout ça, c'est bon, hein, c'est bon pour le cœur.
La charcuterie, c'est gras, c'est bon la charcuterie ou pas?
C'est pas forcément. Vous savez, c'est à devenir presque schizophrène quand on est nutritionniste et qu'on propose ce genre de programme, parce que on peut pas conseiller aux gens de manger de la charcuterie toute la journée. On peut leur dire une fois de temps en temps, oui, mais c'est pas avec ça qu'on va construire notre alimentation.
Non, bien sûr.
Et est-ce que pour les autres protéines, du coup, c'est la vida loca, on peut y aller? Le poulet à gogo, le poisson, est-ce que là, on n'a pas de limite?
Alors pas à gogo, puisqu'il faut qu'on respecte ces apports. Il faut juste ce qu'il faut pour l'alimentation, c'est-à-dire, enfin pour le bon fonctionnement du corps, c'est-à-dire 10 à 20% de nos calories sous forme de protéines.
Ouais,
parce que
tout.
Si
donc
vous en prenez trop,
l'entrecôte, c'est pas la peine, quoi.
Alors, si, on peut, on peut, mais pas que ça, pas matin, midi, soir, puisque certains peuvent manger de la viande au petit déjeuner. Mais il faut, pourquoi est-ce qu'il faut être quand même vigilant? Ce n'est pas une alimentation hyperprotéinée, parce que si vous donnez trop de protéines, eh bien, votre corps risque d'aller se servir de ces protéines à des fins énergétiques. Et alors, on n'est plus dans les corps cétoniques.
Oui.
Donc, il faut faire attention à ça.
Mais Catherine, alors, du gras, mais du bon gras, on a compris. Mais comment je peux mincir avec du gras? On a quand même du mal à saisir le principe, hein. C'est toujours cette histoire de cétogène, de corps cétogène, mais je trouve ça pas très intuitif.
C'est compliqué. Alors il faut voir deux choses. Déjà, quand vous fabriquez ces corps cétoniques, eh bien vous n'avez plus faim. Ils sont anorexigènes. Ils vous coupent l'appétit. Donc vous mangez moins. Et en plus, voilà, on a dit que l'autre source, c'était d'énergie,
le gras,
c'était d'aller chercher.
En fait, c'est ça écœure un peu.
Ça écœure exactement. Puis les corps cétoniques, vraiment, ça vous coupe l'appétit. Et puis quand vous utilisez vos corps, enfin vous fabriquez vos corsets toniques à partir de la transformation des graisses qui sont stockées. Donc vous déstockez vos graisses, et bien si vous déstockez, vous maigrissez. Voilà pourquoi vous perdez du poids dans un deuxième temps en utilisant les réserves en graisse.
Alors on a compris, qui dit régime cétogène dit mauvaise haleine. Mais comment est-ce qu'on est sûr qu'on est vraiment en état de cétose? Est-ce qu'on peut le vérifier nous-mêmes?
Tout à fait. Vous avez en pharmacie des petites bandelettes que vous pouvez mettre au niveau des urines. Et quand vous fabriquez des corsets toniques, eh bien la bandelette va devenir rouge foncé, violette, vous disant qu'en effet vous avez des corsets toniques au niveau des urines. Il y a d'autres manières de faire, mais ça devient plus compliqué dans la laine, etc. Mais il y a manière de voir. Mais franchement, où va-t-on si on est obligé d'aller mettre une bandelette dans ses urines pour vérifier qu'on est bien en cétose? C'est un peu compliqué quand même. Hein.
D'accord. Et est-ce qu'on peut boire de l'alcool quand on suit un régime cétogène, même si on est en plein mois de janvier, mois sans alcool, mais bon, pour ceux qui ne le font pas?
A priori, on va faire de janvier à décembre sans alcool. Hein. C'est plutôt mieux parce qu'il y a du sucre. Voilà. On peut une fois de temps en temps se permettre. Ça ne va pas faire entre guillemets rater une alimentation cétogène. Un verre de vin une fois de temps en temps, mais c'est vraiment une fois de temps en temps. En tout cas, c'est pas une consommation quotidienne.
Catherine, est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type d'un régime cétogène pour qu'on comprenne un peu, que ça soit un peu plus concret?
Alors, un petit déjeuner.
Alors, le matin, vous allez chercher la noix de coco dans l'arbre.
Exactement. Parce qu'on a Koh-Lanta, on a que ça à faire, la noix de coco, voilà.
Allez-y, voilà. Allez-y, Catherine.
Il vaut mieux se lever tôt. Donc, vous pouvez faire votre pain keto si vous avez envie. Et puis, vous pouvez faire une sorte d'avocado toast avec, vous pouvez, par exemple, couper un petit peu d'avocat et puis mettre quelques olives. Sinon, on peut imaginer aussi faire une omelette avec, par exemple, des olives ou autres. On peut prendre notre thé, notre café. Là, il n'y a pas de contre-indication.
D'accord.
On peut mettre, voilà.
À manger. Attendez, non, continuez s'il y a encore.
Oui, parce qu'on peut mettre à la place de votre avocat sur votre pain, on peut mettre un peu de beurre quand même. Hein. Sinon, à midi, un peu de viande ou de poisson, mais pas non plus en excès, accompagné d'une petite portion. Hein, on est à 100 grammes de légumes verts, haricots verts, épinards ou salade.
Parce que là, on est en hypocalorie avec tout ça, là.
Justement, c'est pour ça que vous allez maigrir. Voilà.
En fait, Jimmy, je vous explique un truc. Quand on mange plus, on maigrit.
Ouais, 100 grammes de haricots verts, un steak haché de 23 grammes.
Exactement. Et puis, vous pouvez terminer quand même avec un yaourt de coco, par exemple, qui lui est quand même relativement...
Très riche, 13 calories au 100 grammes.
Ah non, il est riche. Ou sinon, un peu de fromage, mais pas dur uniquement pour éviter le lactose.
Au goûter.
Vous pouvez éviter les fruits, c'est mieux. Au goûter, il y a quelque chose d'assez sympathique, c'est de prendre une belle poignée. Pour une fois, on peut se permettre une belle poignée d'oléagineux, donc de noisettes, amandes et équivalents, à condition de choisir les non salés, parce que sinon, on va finir par monter notre pression artérielle. Tout ça, on peut l'assaisonner, hein, que ce soit déjeuner ou dîner, avec des huiles. On peut utiliser du beurre qu'on peut faire fondre, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, on peut quand même mettre notre avocat au programme partout et utiliser...
La moitié que vous n'avez pas mangé le matin, vous le mettez
exactement.
Le soir, c'est bon.
Exactement. Et sans aller chercher la noix de coco, on peut utiliser l'huile de coco, qui est intéressante.
Mais écoutez, merci beaucoup, docteur Lacronière. On a encore un petit peu faim, mais merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et pour cet éclairage donc, sur ce régime si tendance, le régime cétogène. Ce qu'on peut en attendre et tout de même les précautions à prendre, car on l'a compris, c'est un programme amaigrissant qui n'est pas sans risque. Bel après-midi à vous et merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les mots du quotidien nous fera un focus, enfin plutôt Benjamin Lévesque viendra nous expliquer les bienfaits de la zoothérapie. Tout ça, ça va être passionnant, j'en suis sûre, et c'est dans un instant. À tout de suite.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi. Alors, à présent, on va passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Aujourd'hui, on s'est intéressé à la zoothérapie. Savez-vous ce que c'est? Qui peut avoir recours à la zoothérapie? Avec quels animaux on peut aider les malades? Notre journaliste Benjamin Lévesque a été vous interroger sur le sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Étymologiquement, j'ai envie de dire que c'est une thérapie qui passe par le bien-être aux côtés des animaux.
Que ça doit être pour traiter la phobie des animaux.
Bah, si c'est zoo, je pense que ça doit être tout ce qui est assez sauvage. Je pense assez exotique, du style des lions, des tigres, des éléphants.
Ne serait-ce que d'avoir un chat à la maison, je sais que quand je suis un peu angoissée, un peu anxieuse, ça fait beaucoup de bien, donc je n'ai aucun doute de l'efficacité.
Je pense que c'est des contacts comme on peut avoir avec de l'art-thérapie ou la musicothérapie ou des choses comme ça, c'est des approches différentes qui peuvent faire du bien aux personnes qui en ont besoin.
Alors Benjamin, vous avez enquêté sur le sujet, racontez-nous c'est quoi précisément la zoothérapie, est-ce que c'est nouveau ?
Alors ce n'est pas l'animal qui va guérir, mais c'est un complément qui va vraiment faire le lien entre le malade et le médecin et vous aider à aller mieux, que ce soit sur le plan physique ou mental. Quelques exemples, la présence d'un animal favorise la relaxation. Pour des patients dépressifs, ça va permettre eh bien, de se sentir utile, de sortir de son isolement ou encore calmer des patients très stressés ou parce qu'ils sont hospitalisés. Et on a découvert la zoothérapie il y a déjà plusieurs décennies, comme l'explique la vétérinaire Bénédicte Yvain.
Boris Levinson, c'est un psychiatre américain qui, dans les années 50, a fait quelques recherches et il a recueilli un chien perdu dans les rues de New York. Il l'a amené à son bureau et ensuite il reçoit en consultation un couple avec un enfant autiste. Et il a pu observer, grâce à ce chien, la première tentative de communication avec le monde extérieur de l'enfant autiste. Fin des années 50-60, on a Elizabeth et Samuel Corson, donc des psychiatres aussi américains, qui ont utilisé l'animal de compagnie comme moyen de thérapie chez des patients schizophrènes. Et ils se sont rendus compte qu'il était possible chez ces patients, grâce à l'animal, de diminuer les doses de médicaments qu'ils utilisaient dans leur thérapie.
Très intéressant. Benjamin, est-ce qu'on sait qui bénéficie de la zoothérapie aujourd'hui en France ?
Oui, d'abord les personnes en situation de handicap, hein, que ce soit physique ou mental. Ensuite, nos grands-parents, les retraités, souvent isolés. Et puis on utilise de plus en plus l'animal dans le milieu carcéral pour aider la réinsertion des prisonniers.
Et est-ce que ça marche avec tous les animaux, Benjamin ?
Alors non, Jimmy, vous, je sais que vous préférez les bovins, mais on va utiliser des animaux domestiques comme le chat, par exemple, un réputé comme très apaisant. Lorsqu'il ronronne, ça va diminuer notre stress. Mmh. Il est aussi très sédentaire et autonome. Donc le chat est très demandé dans les maisons de retraite. Mais les deux animaux les plus utilisés dans la zoothérapie, ce sont le chien et le cheval, explication du docteur Bénédicte Yvain.
On choisit souvent le chien pour l'aspect émotionnel qu'il représente, l'attachement très fort que l'humain peut avoir avec lui, et sa capacité à partager des activités physiques, comme des jeux simples, le lancer de balles, la promenade. Ils deviennent vraiment de vrais auxiliaires de vie, comme bah, par exemple les chiens qui sont guides pour déficients visuels, les chiens d'assistante pour les personnes en handicap moteur, etc. Le cheval, quant à lui, est utilisé principalement pour tout ce qui est rééducation physique, motricité, les fonctions neuromusculaires, l'équilibre, la coordination. On se rend compte qu'en fait, quand l'humain est assis sur le cheval, il y a un gros travail de posture qui nécessite un réel effort et donc d'avoir une conscience de son corps. Donc ça fait travailler plein de muscles et ça a beaucoup d'applications là-dessus. On parle d'équithérapie pour le cheval.
Et plus exotique, les dauphins sont utilisés dans certaines thérapies. Selon cette spécialiste, il y a l'hypothèse d'ultrasons que ces mammifères produisent et qui auraient des effets positifs sur l'humain, notamment la production d'endorphines.
Est-ce qu'il y a des contre-indications, Benjamin ?
Alors non, pas vraiment, mais surtout bien choisir l'animal. N'ayez pas recours à un chien si vous avez la phobie des chiens, ça va pas vraiment
du conseil.
Ou éviter les chats si vous êtes allergique aux poils de chat.
C'était une super conclusion, Benjamin. C'était vraiment méga bien, comme on dit. Merci, Benjamin.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui rentre en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on voulait parler des zones érogènes. D'abord, qu'est-ce qui définit une zone érogène ? Pourquoi on appelle ça comme ça ?
Alors, d'abord, tout notre corps est traversé par un système nerveux et donc réagit de la tête aux pieds, réagit à toute stimulation. Une zone érogène, ça va être une zone qui va être donc traversée par ce système nerveux, donc réactif, mais sur lequel nous allons y mettre une émotion. Une émotion liée à le relationnel à l'autre et le relationnel à son environnement. Donc les zones érogènes ne sont pas propres à la sexualité, puisque l'enfant se découvre au travers de zones érogènes et découvre sa relation à l'autre au travers de zones érogènes, à commencer par la bouche, puisque c'est là qu'il va nourrir une sorte de ressenti et de compréhension du monde, et au travers de cette compréhension du monde, du compréhension de la relation à l'autre.
Jimmy.
Est-ce qu'on a tous les mêmes zones érogènes ? Je crois que Mélanie, elle a le gros orteil.
Oui,
qui est
les
très
oreilles,
érogène.
Les oreilles aussi. Ouais,
c'est ça. Non, les oreilles, ça peut être une zone érogène.
Mais ah non, que... moi, pas du tout.
Pas chez vous.
Non, bon. Mais j'ai eu une autoplastie quand j'étais jeune, je sens plus
ça,
rien.
C'est une autre histoire, Mélanie. Je pense que ça passionne les auditeurs.
Oui, bien sûr.
Est-ce que du coup, on a tous les mêmes zones érogènes ? Est-ce que voilà, les oreilles sont forcément érogènes de façon universelle, à part Mélanie, mais qui est un peu bizarre ?
Alors, nous, en fait, nous nous développons au travers des mêmes zones érogènes. Donc, à commencer, comme je le disais, par la bouche. Et puis après, il y aura la zone anale. Après, il y aura la zone génitale. Enfin, donc, ce sont des zones qui vont se développer. Mais évidemment que selon nos histoires personnelles, la façon que l'on a eu d'être sollicité, agréablement ou désagréablement, justement ou injustement, c'est-à-dire de façon inappropriée.
Jimmy, c'est des aisselles. Hein. Je m'en fiche pour vous donner quelques détails. Hein.
Je trouve que vous connaissez très intimement.
Non, mais tu me l'as raconté un jour en buvant un café.
Trois fois rien.
C'est sûr qu'autour de la machine à café, on parle de zone érogène.
Exactement.
Donc... Et de morpion, mais c'est encore une histoire.
Donc voilà, nos histoires personnelles vont faire que nous allons investir plus particulièrement certaines zones. Imaginons une maman qui, quand un enfant se couche ou qu'elle va partir, va lui caresser son cuir chevelu ou lui tresser ses cheveux pour une petite fille, ou la chasse aux poux, par exemple, sujet que vous aimez bien. Ouais, à certaines saisons, eh bien, ça peut être très érotisé. Quand je dis érotisé,
c'est pas sexuel. Il n'y a rien d'érotique dans la chasse aux poux, ça, non ?
Parce qu'on va titiller justement quelque chose et ça raconte un soin, ça raconte une tendresse. On peut même trouver érogène des choses qui pourraient paraître comme douloureuses. Vous êtes Jimmy médecin, quand vous soignez vos enfants, eh bien, le fait de tout d'un coup d'avoir une attention vis-à-vis d'eux, de penser un petit bobo, etc., peut solliciter quelque chose de plus érotisé, au sens de plus
chaleureux,
mais même émoustillant aussi dans le lien qui va permettre à l'individu de se construire et de petit à petit prendre en compte, accueillir son corps et les possibilités de ce corps.
Vous le disiez, donc les zones érogènes, elles dépendent un peu de chacun, mais est-ce que on va dire en général, hein, est-ce que chez les hommes et les femmes, parce qu'on en connaît quand même des grandes zones érogènes, certaines femmes c'est les tétons, les hommes, enfin bon bref.
Là pour parler des zones érogènes sexuelles.
Non, Jimmy, ne rigolez pas s'il vous plaît, mais ce que je veux dire, est-ce qu'entre hommes et femmes, les zones érogènes les plus connues, on va dire, est-ce que ce sont les mêmes ?
Non, parce que par exemple, vous parliez des tétons, il y a des femmes qui ont les seins qui sont extrêmement sensibles au niveau de la masse du sein, du côté du sein, et pas du tout du téton, et d'autres le téton et pas du tout la masse du sein. Ça dépend pas ni de la grosseur ou de la petitesse.
Ni le genre, voilà. Donc, homme ou femme, c'est pas
exactement.
Ça
il y a des hommes
qui sont sensibles des tétons.
Il y a des hommes qui sont très sensibles des tétons et d'autres qui n'aiment pas du tout. Alors après, ça pose aussi la question, est-ce que c'est qu'ils ne sont pas sensibles ou est-ce que c'est qu'ils le sont et que c'est dérangeant de l'être parce que cela renvoie à quelque chose au niveau de l'imaginaire plus féminin. Donc en fait, c'est et de même pour les femmes, il y a des femmes qui sont très sensibles au niveau du téton, mais comme ça les renvoie à une fonction maternelle, elles n'aiment pas être sollicitées au niveau des tétons parce qu'elles ont le sentiment que ça ne peut pas faire bon ménage avec un acte d'ordre sexuel.
Une dernière petite question, Jimmy, je sens que vous êtes motivé.
Exemple, vous avez parlé tout à l'heure mais de la marge anale, est-ce que ça peut être une zone érogène ?
Par hasard, tiens.
Non, mais vous avez parlé, il y a plusieurs phases, la phase orale,
la phase anale, bien sûr. Alors ça, l'est pour l'enfant, puisque c'est un moment d'ailleurs de maîtrise, et en tout cas un moment très important, puisqu'il va pouvoir maîtriser ses sphincters, et ça va être quelque chose d'extrêmement jubilatoire. Et puis évidemment, on va retrouver le plaisir dans notre vie d'adulte, le plaisir d'abord de pouvoir déféquer, de pouvoir se libérer. Mais certains, dans leur sexualité hétérosexuelle ou homosexuelle, vont stimuler cette zone, qui est une zone avec un système nerveux extrêmement puissant, et heureusement, sinon nous ferions dessus. Et bien donc, ce sont ils vont l'investir, et du coup, évidemment, ça va participer d'une façon d'un contact à l'autre, d'une possibilité de pénétration, de fantasmatique aussi, d'être possiblement tous des contenants, et pas simplement des contenus pour un homme qui, normalement, quand il est dans la sexualité hétérosexuel pénètre, donc il est contenu, alors que là, la zone anale, c'est une zone qui permet de fantasmer quelque chose de l'ordre de la possibilité du contenant.
Il faut investir.
Heureusement que vous ne regardez pas cette chronique, parce qu'ils sont tous les deux, ils essaient de garder un sérieux.
Très sérieux en 2021.
Ils posent des questions, mais ils ne les assument pas.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces détails, ces conseils et ces détails.
Ah, mais merci Jimmy.
On revient demain, c'était vrai, c'est lui qui vous a lancé. On revient demain, bien sûr, à la même heure, à 15h, on sera là, tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont nous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Mathieu. Bonjour à tous, bonjour Mélanie. Oui, on va se venger aujourd'hui.
De qui ?
De
vous, de moi ?
Non,
moi
pas
de
nous.
Vous ?
Isabelle de France, vous vous souvenez, la reine d'Angleterre. Elle s'est vengée de son mari, qui était avec ses amants.
C'est assez moche.
Et puis Sylvine Rubinstein, parce que les nazis avaient tué sa sœur, il s'est vengé, il a tué plein de nazis.
Oui, ça, on ressemble à... Mais je sens que Mélanie est déstabilisée, on dirait une parodie de Tarantino. C'est une histoire vraie, je vous incite à rester avec nous, vous allez voir, c'est extraordinaire. Moi, je vous parlais d'une histoire extraordinaire plus récente, d'une vengeance plus mordante, plus médiatique aussi, celle d'une certaine Valérie Trierweiler.
Elle
s'est vengée dans un livre, paraît-il.
Écoutez, des histoires de vengeance, mais dans la bonne humeur, j'en suis sûre. On sera à l'écoute avec le docteur Jimmy Mohamed, bien sûr. Et vous, n'hésitez pas à rester sur Europe 1.